Alors, ce rêve est très court. Je l'ai fait il y a un ou deux jours, enfin hier d'ailleurs. Donc, peu de temps après m'être endormi, et voilà, je suis dans une grande surface spécialisée dans le multimédia qui s'appelle, je peux citer le nom ?
Bien sûr.
Ça s'appelle Surcouf. Voilà. Et ça existe comme à Paris. Donc, j'y suis déjà allé faire des courses là-bas, souvent. Et donc là, c'est assez sombre. Je suis près des quais, c'est près de la sortie. Et il se trouve que il y a une sorte d'alerte à la bombe, ou en tout cas, ils font évacuer le magasin. Et ça n'a pas l'air d'être une simulation. Tout d'un coup, je me rends compte qu'on est dans une période où il y a des alertes terroristes ou contre les terroristes ou tout, enfin plan Vigipirate, ça je me dis mais ça se trouve c'est sérieux quoi. Et le temps que je me dis ça, tout d'un coup je me retrouve dans le noir et avec non pas une grande douleur mais la sensation que je suis plus conscient quoi. Et je me dis que là je suis vraisemblablement en train d'être de mourir quoi. Ah non, j'ai oublié une chose. Avant ça, je constate que juste alors que j'allais sortir, un système de fermeture s'est mis en marche, probablement automatiquement, à la sortie du magasin, et fait que je n'aurais pas pu sortir quoi. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans la réalité, mais en vrai. Une sorte de grille, enfin c'est pas une grille, c'est une paroi métallique, s'est déployée à l'endroit où les gens auraient pu sortir habituellement, quoi. Dont moi. Donc on est pris au piège juste avant et juste après, je me rends compte que je suis plus conscient, quoi. Je suis en train de mourir et à ce moment-là, je me dis que j'essaye de penser aux gens. Qui sont loin de moi et à qui j'aurais aimé revoir une dernière fois, que je reverrai plus, et j'essaie de leur envoyer des pensées, mais je suis pas tellement paniqué parce que je me dis que maintenant je vais voir ce qu'il y a après la mort, quoi, voilà. Enfin après la vie, pardon. Voilà, c'est très court comme rêve, j'ai mis longtemps à le raconter, mais en fait il se passe pas grand chose, quoi.
Mais donc il y a un attentat ?
Oui, à mon avis, oui.
Parce que là, j'ai pas bien compris, c'est pas clair.
Ah
Qu'est-ce
oui.
qui se passe dans ce magasin ?
Une évacuation.
Une évacuation, donc on signale un danger imminent.
Voilà, c'est ça.
Mais à aucun moment, vous n'avez la notion de l'explosion.
J'entends pas le bruit, mais je suis complètement pulvérisé, je pense.
Mais par quoi seriez-vous pulvérisé ?
Eh bien, par effectivement une explosion.
Mais.
Une bombe.
Et donc, vous ressentez le souffle, vous ressentez.
Non, je ressens vraiment tout d'un coup comme si j'étais sonné, quoi. Je pense que certaines victimes d'explosions telles que celle-ci n'ont à peine le temps, deviennent tout de suite inconscientes, quoi. Comme si on leur donnait un gros coup de poing, ils ont une onde de choc avant même d'entendre le bruit, quoi. Mais c'est peut-être pas comme ça que ça se passe en vrai, hein. Je sais pas.
Oui, puisque là c'est une élaboration dans le rêve. Mais vous ne savez pas s'il y a eu une bombe. La seule chose qui puisse vous faire supposer qu'il y a une bombe, c'est qu'on ordonne une évacuation. Mais qu'en même temps, il y a un système paradoxal qui verrouille les entrées ou les sorties. Et que donc vous seriez pris au piège.
Oui.
Et donc on peut supposer que là c'est l'angoisse qui peut aussi vous amener à l'évanouissement. C'est-à-dire que.
Je pense pas, parce que. Il y a un moment donné. Je crois que je ressens quand même une certaine brûlure, quoi, à un moment donné, mais. Ça peut être une supposition. C'est vrai que rien ne le prouve, a priori. Mais j'ai le souvenir quand même de la certitude que ça a explosé, quoi. C'est-à-dire que.
Tout à fait, mais là, c'est le pouvoir de l'autosuggestion et surtout du conditionnement. Puisque là, on vous conditionne. Et là, c'est un petit peu ce qui est mis en scène dans le rêve. Vous entendez parler d'un plan Vigipirate, vous entendez parler de renforcement, mais donc c'est un climat qui est créé autour de vous. Parce que là, donc, cette année, on nous parle du plan Vigipirate qui va être renforcé. L'année dernière, on nous parlait du H1N1. Est-ce que c'est vrai?
Ah bah, ce qui est vrai, c'est que il se passe de temps en temps des attentats, quoi, mais pas forcément en ce moment même.
Donc là, il y a un climat, puisque là, c'est un petit peu, je dirais, le climat du rêve. C'est le sentiment de paranoïa, et donc la mise en conditionnement tellement forte que vous pouvez tellement le croire que vous pensez que ça se produit. Mais en même temps, quel est ce système curieux qui ferme, verrouille les portes au moment où on demande d'évacuer le magasin? Puis en plus, vous choisissez une surface qui est donc à la fois est immense et un très curieux nom. Puisque là, Surcouf, c'est pas un pirate, c'est un corsaire. Et vous parlez d'un plan Vigipirate.
Ouais, c'est vrai que c'est tout d'un coup, ça me saute aux yeux là. Maintenant que vous le dites,
Oui, donc
il y a rien.
un pirate, c'est un franc-tireur qui est un dépouilleur, un assassin, qui n'a aucun scrupule à voler l'or des autres et à tuer. Le corsaire, en principe, c'est quelqu'un qui est à la solde du roi et qui travaille pour le gouvernement. Donc, qui était chargé de détrousser les autres navires, les navires étrangers, mais qui était donc qui avait une existence légale. Donc, on a l'impression que vous mettez en scène des éléments. Est-ce que ce que l'on me raconte est juste? Est-ce que on n'essaye pas de m'enfumer quelque part?
Ah bah oui, là je me suis fait avoir effectivement dans ce rêve. J'ai eu un problème de. Ouais, c'est ça, hein. C'est-à-dire que je ne m'y attendais pas à cette fermeture qui va à l'encontre du bon sens.
Oui, surtout si on demande d'évacuer, quoi. Si des grilles se mettaient à se déclencher comme ça, c'est plutôt en cas de vol.
Ah oui, et puis en fait, ça n'existe pas, quoi, en vrai, hein. Enfin. Vous avez raison, ça pourrait se faire en cas de vol, un truc comme ça, une fermeture, mais dans ces cas-là, c'est plus simple. Dans ces cas-là, il y a une sorte de. Bon, le groom se ferme, se verrouille en position fermée, mais on ne va pas jusqu'à déployer une espèce de barrière blindée comme ça. Enfin, bon, bref, c'est un
Bah
détail,
si,
mais
dans une banque.
n'existe pas dans la réalité. Hein.
Dans une banque, si.
Peut-être dans les banques, oui.
Vous avez des systèmes de défense qui, au moindre signal d'alarme, peuvent verrouiller complètement la banque.
Voilà, je savais pas, mais
Mais c'est vrai que là, tout se passe en silence. Comment êtes-vous informé de l'évacuation?
bah déjà, c'est la panique dans le magasin, et je crois qu'il y a une sirène, enfin, un dring, plus les vigiles qui. Ouais, voilà. Qui font le signe qu'il faut partir par là, tout ça, quoi. Voilà.
Oui. Alors, par contre, donc, j'évoquais quelque chose qui est contemporain, c'est-à-dire une mise en scène par rapport à une réalité. Aujourd'hui, le plan Vigipirate est renforcé. On nous met donc dans un climat de peur qui est proche de la parano. Est-ce que c'est fondé ou pas? On ne le sait pas.
Je pense que finalement. Ça a vraiment explosé dans ce rêve et que si jamais ça voulait dire quelque chose, ce rêve, si c'était pas seulement un délire comme ça, c'était effectivement pour dire que le verrou s'est refermé et que cet attentat a été organisé, très bien organisé,
Mais par qui?
parce que bah, justement, peut-être que le jeu de mots avec Surcouf, c'est quelque chose que vous dites parce que ce sont des pensées que j'ai. Que les gens qui fomentent les attentats et qui s'en offusquent ont des intérêts communs, voire sont les mêmes personnes. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je pense que certaines fois, les gouvernements organisent du terrorisme de façon à mieux contrôler par la suite les populations.
Pour justifier un état plus policier ou un état plus militaire.
Oui, voilà.
Alors, ça pourrait être une réalité, c'est-à-dire des pensées que vous avez. Maintenant, on va le voir sur le plan plus symbolique, c'est-à-dire sur la constitution psychologique. Il semblerait que vous ayez une problématique vis-à-vis de l'image du père. Et que donc le père apparaisse soit comme un pirate, soit comme un corsaire, donc quelqu'un qui ne donne pas des informations claires et qui pourrait retirer les bénéfices des situations qu'il déclenche. Et donc qui vous a mis dans un climat d'insécurité qui aujourd'hui continue à vous poursuivre. Et qui vous rend assez méfiant vis-à-vis de tous les systèmes d'autorité. Alors, vis-à-vis de votre père, vous pouvez avoir ce sentiment qu'il ne
Oui,
vous
c'est
a.
possible. C'est possible. Enfin,
Cette.
c'est certain. C'est certain que ce sentiment-là a peut-être précédé ensuite ma vision, a enclenché ma vision pessimiste des systèmes politiques, quoi, des systèmes qui organisent aujourd'hui la société.
C'est un manipulateur, votre père?
Oui, mais bon, c'est une petite faiblesse qu'ont beaucoup de gens, hein. Aujourd'hui.
Ah, nous sommes tous manipulateurs à certains niveaux, bien sûr. Mais par contre, quelquefois, c'est simplement
Bah, disons que
très
des fois il s'est
léger.
bien lâché, ouais. Maintenant, il n'est pas constamment dans cette position, mais oui, malheureusement, oui, faut avouer ce qu'il est. C'est quelqu'un qui est comme ça. Mais c'est bien, c'est subtil, hein. Donc on peut il y a toujours plusieurs versions. Quand quelqu'un manipule quelqu'un d'autre, ça peut être vu de différents angles, sous différents angles.
Alors, effectivement, mais surtout, ce qui est important, c'est l'impact que cela a sur vous aujourd'hui. Puisque là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un état émotionnel qui vous met dans certaines situations en faillite. Et donc, par moments, il suffit que certains déclencheurs soient présents, on ne sait pas très bien lesquels, mais pour que donc vous soyez tout d'un coup en état de panique. Et que dans certaines situations, vous ne puissiez plus gérer ce qui se passe. Puisqu'il y a un flot émotionnel qui serait trop fort. Donc là, on pense vraiment qu'il y a eu une forte manipulation qui a été exercée sur l'enfant, un double langage. Donc on vous fait croire quelque chose et il se produit le contraire. Là, cette mise en scène du double langage serait fuyez, nous fermons les portes.
Ouais, mais
Et donc.
ça correspond à ce qui s'est produit dans la réalité. Bon, j'ai cru certaines choses pendant longtemps, et ensuite, en grandissant, je me suis rendu compte que ça n'était pas comme ça que le monde fonctionnait, que le double langage a existé dans mon éducation. Puis voilà, c'est vrai, c'est sûr. Le double discours, enfin l'incohérence, les choses incohérentes.
Voilà, ou la double contrainte, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez,
Voilà.
ce ne sera jamais la bonne attitude.
Oui, il y aura toujours une réaction, un déclenchement. L'aboutissement de tout ça, je pense que c'est l'addiction à la souffrance, en fait. C'est la volonté de vivre intensément et que la souffrance perdure dans l'environnement, de façon à ce que on vive la vie. Que c'est. Moi, je pense que la manipulation, elle a ce but-là, c'est de créer de la souffrance.
Et de se nourrir de la souffrance des autres.
Voilà, s'en nourrir, si on peut dire, ouais.
Bah si, puisque le manipulateur recherche un bénéfice secondaire dans la manipulation, c'est-à-dire le contentement, nourrir son égoïsme.
Voilà, l'égoïsme, ouais,
Donc ça peut se manifester de différentes façons, ça peut être simplement à des fins nourricières ou simplement à une recherche narcissique.
mais c'est quand même étonnant. À des fins artistiques, vous dites?
Narcissique.
Ah, narcissique.
C'est-à-dire une
Ouais, enfin, c'est
reconnaissance.
quand même étonnant que on puisse se nourrir de souffrance. D'ailleurs, ça puisse vraiment nourrir. Faudra employer un autre terme, mais bon, c'est pas.
Ben, non, c'est un petit peu ça, puisque là, c'est une. Comment dire? Quand vous êtes en souffrance, vous émettez de l'énergie. Et surtout, vous avez une obédience par rapport à celui qui provoque la souffrance. Mais c'est un système
Un
qui.
rapport de un rapport obédience, c'est un rapport de hiérarchique, de domination,
C'est
quoi.
ça, tout à fait, oui. Il y a un assujettissement et un attachement donc à celui qui provoque la souffrance. Puisque par exemple, si c'est le père qui provoque la souffrance, la maltraitance amène à un curieux phénomène, c'est l'attachement. L'enfant qui est maltraité par son parent restera dépendant de lui puisqu'il cherche une reconnaissance de ce parent qui l'attend. Et donc il y a toujours le souhait inconscient chez l'individu maltraité d'être aimé. Il y a une espèce d'espoir vain que cet amour un jour va se produire. Puisque nous naissons avec cette forme dans le cœur, cette force, cette énergie, nous savons que le parent doit nous aimer. Comme nous, nous l'aimons de tout notre cœur, un enfant, il est dans une forme d'amour incommensurable vis-à-vis du parent. Et il est légitime qu'il attende en retour ce même amour.
Alors, j'ai juste une question à vous poser. Il y a des années de ça, il y a au moins 5-6 ans, je vous avais appelé et j'avais eu un rêve où j'explosais dans une explosion nucléaire et je me dissipais en micro-particules que je sentais vraiment. Je me rendais compte que je revenais à l'état atomique, quoi, dans la mort. Et là, il me semble, mais c'est très flou maintenant, ça fait des années, que vous m'aviez dit à ce moment-là que fallait que je fasse attention parce que j'avais une grande colère en moi et que ça pouvait se retourner contre moi. Et il se trouve que j'ai eu une maladie auto-immune peu de temps après, quoi. Effectivement, qui concernait en fait la prolifération de cellules de façon anormale, quoi, si vous voulez, qui a été traitée, et c'était une maladie lourde. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous m'aviez dit? Est-ce que ça aurait été votre interprétation? Ou est-ce que c'est dans mes souvenirs que vous aviez dit ça?
Ah ben c'est tout à fait possible, d'après ce que vous décrivez, et là on retrouverait cette problématique, attention à l'auto-implosion, attention à cette énergie que vous retourneriez encore contre vous. Alors là, ce qui est plus précis, c'est qu'on voit un état émotionnel très fort, qui finit par produire une implosion, donc c'est fermé, c'est de l'intérieur, il y a certainement un état émotionnel qu'il va falloir mettre à jour. Et donc, comme vous semblez être d'accord avec la forme du père, il est possible que ce soit lui qui mérite cette colère, que vous puissiez, que vous osiez l'exprimer.
Bah, je pense que la colère, malheureusement, à l'époque, elle pouvait s'exprimer. J'avais beaucoup d'énergie en moi. Puis elle s'est manifestée un peu dans cette maladie. Ça a bouffé beaucoup d'énergie. Et maintenant, j'aurais même plus la force d'être en colère vis-à-vis de ce genre de personne. J'ai plus l'énergie de me mettre en colère par rapport à ces gens-là.
Bah
Voilà.
que vous, en tout cas, vous sachiez à qui attribuer cette colère. Donc peut-être faire un travail autour de cette colère autour du père, pas forcément lui exprimer à lui, mais la faire monter, la faire jaillir à la conscience. Et trouver tous les points où effectivement vous avez pu voir qu'il a pu être égoïste ou maltraitant. Et donc
Ça sert
utiliser
à
la
quoi
deux.
être temps? Ça sert à quoi? On les change pas, ces gens-là. Enfin...
Alors non, il ne s'agit pas de changer ces gens-là, il s'agit que les états émotionnels que vous continuez de vivre à l'intérieur de vous, qui sont fortement mis en scène dans le rêve, qui aboutissent à cette paranoïa et à ce sentiment d'impasse, d'être complètement acculé, que vous puissiez donc les traduire en termes logiques. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous trouverez face à des déclencheurs analogiques, l'état émotionnel ne vous submerge pas, mais que vous soyez capable de raisonner par rapport à ce qui vous arrive. Et donc, chaque fois que vous serez face à une personne qui aura les mêmes comportements, vous soyez capable de la démasquer et de vous y opposer. Je n'entre pas dans ce chemin, je ne me fais pas manipuler émotionnellement, j'ai une défiance et donc je sais quels sont les moteurs, quelles sont les mécaniques précises qui ont été mises en route. Et
D'accord.
notamment la double contrainte ou le double langage. C'est juste dans ce sens, simplement rationaliser, rendre de plus en plus conscient ces états émotionnels, en leur attribuant une origine et en voyant comment vous avez pu réagir à des impacts qui amènent à une manipulation. Parce que le drame, c'est qu'un enfant qui a été manipulé reste manipulable par n'importe quel individu qui a les mêmes structures que le manipulant.
Maintenant, j'arrive assez bien à me rendre compte de certaines choses dont je ne me rendais pas compte avant, mais donc ce rêve dit qu'il reste encore peut-être à rester donc vigilant, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a peut-être même encore des prises de conscience enfin, pas des prises de conscience, mais un travail de ma part à accomplir quand je me retrouve face à des systèmes comme ça, quoi,
Tout à fait.
de contraintes, quoi, d'amélioration, quoi.
D'analyser les états émotionnels dans lesquels vous vous retrouvez pour mieux comprendre. Mais donc de le faire un petit peu comme un anthropologue, j'observe ce qui se passe en moi ou un ethnologue. J'observe ce qui se passe. Je suis détaché, j'observe un sujet, une personne qui vit dans un tel contexte, une telle culture, un tel milieu. Quels sont les rites associés à cette culture, à ce milieu? Je m'observe et je vois comment mon corps réagit, comment mon psychisme réagit. Donc au début, c'est une sorte de métaposition. Je suis en distance vis-à-vis de moi-même. J'observe tous les états que je peux traverser. Et ensuite, j'essaye de les résoudre en termes logiques. Quelles sont les causes de ces effets?
Et vous savez ce que répondent les gens à ce moment-là? Ils disent mais on peut pas pédaler et se regarder pédaler ou je sais pas quoi, enfin,
Ah
faire
bon?
du vélo et se regarder pédaler. Enfin,
Ah bon?
moi, j'ai souvent dit ça à des gens que je sentais en train d'être. Des gens qui disent mais écoute, je vais voir cette personne, mais elle va me taper sur le système. Je dis oui, mais alors mets à distance dans ta tête les choses et... Ah bon, bref. Et souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut pas. Et en fait, ça, cette phrase, elle est fausse.
Ah ben voilà, je préfère.
On peut se regarder pédaler, se regarder pédaler. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps en y repensant. Parce que, par exemple, quand on regarde son ombre, c'est ça qu'on fait.
Oui, effectivement. Voilà un
Voilà.
exemple tout à fait pratique, pragmatique, simple.
Donc, c'est des phrases idiotes, ça.
Oui, donc là, le processus d'observation de soi-même, c'est le principe même de l'analysant. Quand on est en analyse, on devient de plus en plus témoin de soi-même.
Bon,
C'est vraiment la position où on se met, où on est détaché, on observe. Et l'un des premiers, comment dire, éléments qu'on peut mettre en place, l'une des premières pratiques, c'est d'observer les états émotionnels. Qu'est-ce que ça produit en moi? Qu'est-ce que je ressens quand je suis face à un faisceau émotionnel où je me sens submergé? Pourquoi est-ce que mon plexus se resserre? Est-ce que j'ai les jambes qui tremblent? Est-ce que j'ai la respiration courte? Tiens, oui, j'observe ce phénomène. Je l'observe, mais simplement je suis détaché. Voilà, j'ai du mal à respirer, je ne peux pas répondre. J'aurais aimé répondre, mais je ne peux pas. Je suffoque, je suis angoissé, je transpire. J'observe simplement. Et ensuite, le détachement se fait de plus en plus. Et
Et
après donc.
il y a pas d'action, quoi, parce que des fois quand on est mal, on a envie de ce que le fait change quand même, on a envie immédiatement, bon,
Oui, mais justement, c'est en observant sa souffrance qu'on peut s'en détacher mieux. Et donc, au début, effectivement, on est encore pris dedans, mais de plus en plus, on va s'en détacher pour l'abandonner. Et amener des états logiques, rationnels, pour décrire ce que l'on ressent et de plus en plus être capable de dépasser l'émotion, puisque l'émotion nous empêche, nous clive de réagir, puisqu'on se retrouve non pas face à une réalité, mais face à des états d'enfant vis-à-vis de l'adulte, le parent qui a pu donc être terrorisant ou contrariant ou dominant, pour que ce ne soit plus l'enfant qui réagisse, mais l'adulte.
Merci pour ces conseils. J'étais loin de comprendre exactement, malgré que ce reste soit très court, ce qu'il pouvait suggérer. Et une fois de plus, donc, je vous remercie.